On a besoin de rassembler les principaux responsables et qui discutent très très franchement. Mais c'est pas une discussion purement humaine. Relisez le texte des Actes. Nous et le Saint-Esprit, en fait, avons décidé que la réunion synodale, conciliaire, ça n'est pas une discussion purement humaine. En fait, le propre de ce type d'assemblée, c'est de se mettre en accord sous la motion du Saint-Esprit. Et on peut dire qu'il y a de ce fait une sorte de démarche consensuelle, si vous voulez, qui est une sorte d'a priori de la démarche conciliaire. Tous les évêques, quels qu'ils soient, quelle que soit leur opinion de départ, pensent qu'ils vont se mettre sous la surveillance et en quelque sorte sous la motion de l'esprit, et que ce n'est pas leur opinion qui compte, c'est vraiment la pensée de Dieu. La pensée de Dieu qu'ils vont exprimer. Donc nous n'avons pas affaire à n'importe quelle assemblée parlementaire. Il peut y avoir des parties conciliaires. Le dernier concile, on verra, a mis aux prises, parfois d'une façon très, très aiguë, une majorité, une minorité. Mais le but d'un concile, ça n'est pas la victoire d'une majorité contre une minorité. À ce propos, une toute petite anecdote. À la fin du Concile Vatican II, un représentant dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, un théologien romain, voit le père Congar, qui avait été un peu un des inspirateurs de ce qu'on a appelé la majorité, et lui dit « Eh bien bravo, vous avez gagné ». Et le père Congar n'a pas été content du tout. Il a dit « Je n'ai pas gagné ». Ça n'est pas du tout la victoire d'une majorité d'un parti, c'est vraiment la décision de l'Église. Et d'ailleurs, dit-il, la minorité nous a rendu service. Parce que si la minorité n'avait pas été là, les textes du Concile n'auraient pas acquis la perfection qu'ils ont eue. C'est à force de discussions parfois acharnées sur certains termes, sur certaines formules très difficiles, que la minorité nous a permis de mieux préciser notre pensée et d'être plus en accord, en quelque sorte, avec la tradition de l'Église. Voilà ce que je voulais dire sur le pourquoi d'un concile. Pourquoi, comment il se réunit et quel est l'esprit d'un concile, le véritable esprit d'un concile. Alors, il faudrait que je fasse, mais évidemment nous n'en avons pas le temps, une sorte d'histoire des conciles pour montrer comment ils sont intervenus à chaque fois, souvent, dans un moment difficile de la vie de l'Église et quels résultats ils ont eu. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la liste des conciles? Alors moi je la sais, mais je vais vous dire, j'ai un petit secret qui date de ma classe de 6e. J'avais un professeur d'histoire assez génial qui nous avait appris un truc complètement idiot, je vais vous dire. Il nous avait appris simplement les premières syllabes, les noms des conciles. Alors ça donnait comme ça, je le sais depuis la 6e. Nicoé, Calcoco, Nicolas, la, Lilivi, Cobatre, va. Et depuis il y avait un deuxième va, ça faisait va. Alors, si vous voulez, très rapidement, je vais vous épeler quand même la liste des conciles. Alors, Nicoé, Nicéen, parce qu'il y a eu deux conciles de Nicée. Ensuite, Constantinople, premier concile de Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, Constantinople II, Constantinople III, Nicée 2, Constantinople 4. Voilà. Alors là, nous avons en fait les conciles du premier christianisme, enfin de la première partie de l'histoire du christianisme, qui concernent, et ça n'est pas indifférent pour nous de le remarquer, qui concernent l'Église indivise. C'est-à-dire que même les chrétiens divisés aujourd'hui se reconnaissent dans tous ces conciles qui ont formulé les grands dogmes de la foi trinitaire et christologique.